Aujourd'hui, la masterclass de Zabou Breitman avec Arne Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Zabou Breitman dans ce jardin du musée Calvé à Avignon. Le principe de cette collection de masterclass, vous la connaissez, puisque vous êtes déjà une addict de son écoute, savoir comment un artiste travaille très concrètement pour essayer d'approcher les conditions d'exercice de son art. Alors peut-être avant de véritablement débuter, je me permets de rappeler quelques éléments concernant votre parcours, Zabou Breitman, dire pour commencer que vous êtes une enfant de la balle, puisque votre père Jean-Claude Deray était scénariste, dramaturge, écrivain, comédien, votre mère Céline Léger, comédienne, et que votre prénom, Isabelle, rappelons-le, était celui du personnage qu'incarnait votre mère dans le feuilleton Thierry La Fronde. C'est d'ailleurs à la télé qu'on vous a connu d'abord dans les programmes Jeunesse, d'Antenne 2, aux côtés de Dorothée. On vous voit ensuite dans de très nombreux films et des pièces de théâtre dans les années 80, et puis en 92, une notoriété qui s'affirme, puisque vous êtes à l'affiche de deux des très grands succès de cette année-là, La crise de Colin Serrault et Cuisine et dépendance de Philippe Mille. Je passe quelques années pour dire qu'en 2001, vous passez à la réalisation avec Se souvenir des belles choses, qui récolte 3 Césars, dont celui de la meilleure première œuvre de fiction. En 2003, une mise en scène de théâtre, cette fois, avec la pièce de Roland Topor, L'hiver sous la table. 6 Molières à la clé, dont ceux du meilleur spectacle du théâtre privé et de meilleur metteur en scène. En 2009, il y aura aussi Des gens, d'après Raymond Depardon, 2 Molières cette fois, et puis dire aussi que vous avez mis en scène un opéra, L'enlèvement au sérail de Mozart à l'Opéra de Paris en 2014, et dire que vous, à l'heure où nous enregistrons cette masterclass, vous venez de tourner une série pour Canal+, Paris, etc. Vous êtes en montage, et on la verra j'imagine dans quelques mois à l'antenne. Résumé ultra rapide d'une carrière très riche. Je crois qu'on pourrait aussi passer une heure ensemble, Zabou Breitman, à parler de vos projets. Vous avez peur du vide ?
Sûrement, oui. Je ne sais pas si j'ai peur du vide ou si juste j'adore fabriquer. Je crois que j'aime fabriquer, en fait.
Vous adorez depuis longtemps fabriquer ?
Oui, depuis longtemps. J'ai toujours fabriqué quelque chose avec mes mains, de la pâte à modeler, des sculptures, du papier découpé, du modelage beaucoup, de la dentelle, du bricolage. Fabriquer, il m'intéresse.
Je parle de vide. Bon, il y a une double absence qui vous frappe aujourd'hui, celle de vos parents disparus à quelques semaines d'intervalle, l'hiver dernier. On demande aux invités de ces masterclass s'ils croient à la vocation dans votre cas. J'imagine qu'elle vient d'eux à l'évidence, mais beaucoup d'enfants aussi tournent le dos au monde professionnel de leurs parents. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, qui vous a nourri, qui vous nourrit peut-être encore aujourd'hui ?
Je pense que pour mon père, comme la situation est désespérée, mais pas grave. Ça, c'était lui. Et donc l'aspect ludique de braver la mort dans toutes les formes qu'on peut donner à notre travail. Donc faire, oui, la peur du vide, oui, la peur de la mort, et fait qu'on n'arrête pas, quoi. Et il estimait qu'il fallait se lever et faire plein de trucs, quoi, parce qu'il y avait plein de trucs à faire, il fallait être curieux et connaître, parce qu'on avait une vie pour connaître tellement de choses. Et il regrettait de partir parce qu'il n'avait pas connu certains pays, certaines choses, parce qu'il ignorait. Voilà, la curiosité. On va dire que la plus grande chose qui animait mon père, c'était la curiosité. Je suis moins curieuse qu'il n'était, mais ça, il m'a transmis ça. Et ils étaient très différents dans leur abord artistique. Ma maman, qui vient du Québec, qui était très classique, dans ses goûts premiers. Mon père aimait tout, était très éclectique. Il savait chanter, il composait de la musique. Ma mère aimait le théâtre. Elle sortait du conservatoire à Montréal, premier prix de tout, de comédie. En France, elle a eu du mal à transposer son accent québécois. À l'époque, dans les années 60, c'était pas bien de dire où suis-je, qu'ai-je fait, que dois-je faire encore. Ça se passe pas très bien dans le conservatoire de Paris à l'époque. Et voilà, quand on a Elvire qui dit Don Juan, voilà, me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif très sain qui m'oblige à cette visite. Et ben ça, c'était, ça a été une terreur pour elle, parce que le français de France est un peu, voilà, est très contraignant. Mais elle aimait ce théâtre-là. Elle, c'était Tchekhov, Loin devant, je pense que c'était une amoureuse de Tchekhov, de Musset. C'était vraiment ce théâtre-là, dans une forme, on va dire, assez, oui, assez plus classique. Et elle avait plus de mal à passer d'une chose à une autre. C'était quelqu'un de beaucoup plus assidu, peut-être. Alors peut-être qu'une forme d'assiduité légère, elle, voilà, l'enfant de ces deux personnes-là que je suis. Une assiduité légère. Pas si ça existe, mais bon.
C'est bien comme formule. Et l'envie, vous l'avez manifestée assez tôt de suivre leurs traces ?
Non, bah non. Alors, je vais faire une autre citation si j'y arrive, parce que à chaque fois que je me lance dans un truc comme ça, en général, je bafouille avant la fin et c'est nul. Alors, je vais essayer de. Alors, être adulte, c'est faire quelque chose malgré le fait que vos parents vous les recommandaient. Voilà. Donc, c'est passé l'adolescence. Non, ils m'ont rien recommandé d'ailleurs. Bon, j'ai voulu faire ma maligne, c'est tout. Mais ils m'ont rien recommandé. Je faisais ce que je voulais. Je voulais être prof, moi. Je voulais être prof d'anglais. Je voulais être prof, j'aimais les élèves, j'aimais la transmettre. Et puis j'aimais l'école. J'aimais énormément l'école. Donc c'était naturel pour moi de vouloir être prof. J'adorais aller à l'école. J'étais heureuse comme tout à l'école.
Mais pourquoi vous avez choisi une autre voie alors ? Pourquoi vous avez fait des très longues études pour rester le plus longtemps possible à l'école ?
On a déménagé pour des raisons financières dans un petit endroit où je n'avais plus accès à beaucoup de choses parce que c'était loin. Je faisais de la musique, je pouvais plus. Je faisais de la flûte traversière, il n'y avait pas de cours avant. Enfin, c'était très loin. Ils n'avaient plus du tout de sous. C'était un peu difficile. C'était vraiment difficile. Moi qui étais une si bonne élève, j'ai tout abandonné, tout laissé, j'ai failli rater mon bac, un truc qui était improbable pour un papa aussi intellectuel. Donc ça a été la catastrophe. Et puis je me suis inscrite en fac, mais je me suis aperçue très vite que j'ai envie de travailler en fait, pour plein de raisons. Pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi quand même pour une autonomie, pour pouvoir dire bon, je vais juste m'acheter un pull, parce que on en était là quoi. Et puis envie de faire plein de choses. Je pense que les 4 ans où je me suis tellement ennuyée ont fini de me fabriquer. L'ennui est un endroit où on se fabrique énormément. Et je pense finalement, sans le vouloir et parce que ça s'est passé comme ça, le fait d'avoir appris tellement de choses très jeune, d'avoir été à Paris, parisienne, à faire plein de trucs, et puis de me retrouver à un endroit où je me suis un peu ennuyée, donc j'ai lu. Mais lu énormément. Je lisais tout ce qui tombait sous la main en fait. Et mon père me disait d'ailleurs, c'est pas très important ce que tu lis, mais lis. Et donc, je lisais tout le temps. Alors, il y avait des gros. Bon, ça, je lisais pas n'importe quoi. J'avais des Misérables. Mais je lisais Hitchcock, des polars, des trucs dits pas pour les filles, de la SF, du fantastique, et puis des trucs dits pour les filles. Alors, tous les poèmes, La Comtesse de Ségur, en passant par. Mais absolument tout. Et parce que je m'ennuyais, tout ça a dû se déposer. Et fabriquer une drôle de façon d'être à la fois hyperactive et très contemplative. Quand je dis que je suis contemplative, tout le monde est mort de rire, mais je le suis, je peux ne rien faire, j'adore ne rien faire et m'asseoir sur un banc et regarder tout autour de moi.
Voilà. Mais du coup, ça a développé un amour des textes qui vous a amené plus tard vers le théâtre. Est-ce que vous le comprenez comme ça aujourd'hui ?
Ça n'a pas été une passion, jamais. Ça l'est devenu. C'est drôle, ça. Mais ça l'est devenu. Non, il n'y a pas. C'est pour ça que la vocation. C'est plus, je vous expliquais comment j'étais fabriquée et par extension, comment ça n'est pas forcément une passion, mais un endroit où j'étais sereine, où je me trouvais tranquille et bien, et avec une énorme foi, un énorme optimisme. Voilà, j'ai toujours été un enfant optimiste et je suis extrêmement optimiste. Et l'optimisme, je pense, m'a beaucoup sauvée de plein de moments difficiles. Très vite, s'il y a un bon mot, s'il y a un truc drôle, s'il y a quelque chose de drôle dans le coin, ça, je vais aller l'attraper, quoi. Alors, la vocation, non. C'était cette voie-là qui me convenait, parce qu'il y avait plein de gens sympas à rencontrer, parce qu'on pouvait rire, échanger, apprendre des choses intéressantes, et puis petit à petit... je suis tombée amoureuse de mon métier. Il y a des amours comme ça, il y a des passions, qui parfois s'éteignent d'ailleurs, mais il y a aussi des gens qui deviennent amoureux de l'autre. Ben, c'est un peu ça. L'amour a grandi avec le temps avec ce travail.
C'est un amour qui s'est construit pour vous, Zabou Breitman, mais on ne se retrouve pas complètement par hasard un jour sur une scène de théâtre pour jouer. Ça s'est passé comment cette première fois? Vous en avez quel souvenir?
J'étais là pour... J'étais contente d'avoir du travail. Mes parents n'avaient plus de travail. C'était difficile pour eux parce qu'ils ont été des gens extrêmement célèbres. Extrêmement célèbres, à une époque quand même où il y avait une seule chaîne de télé. Donc les célébrités, je les connais à travers eux jusqu'à l'âge de, on va dire, 6-7 ans. Puis Thierry Lafronde n'a plus marché. Puis il y a eu mai 68. C'était des gens très révolutionnaires à fond. Ils étaient à fond et j'étais avec eux. Je trouvais ça super. Et puis les choses ne se sont pas très bien passées. Donc j'étais contente de travailler. Et mon père voulait travailler, vivre de ce métier. C'est un métier. On travaille aussi, et donc avec une espèce de souplesse dans les choix. J'étais très souple dans mes choix. C'est pas grave, bah là, oui, oh, bah c'est peut-être pas super, mais je vais le faire le mieux possible. C'était juste ça. Et je pense toujours la même chose. Je pense qu'il faut faire les choses le mieux possible. Après, on aime mieux se diriger vers des choses qui nous plaisent énormément et dans lesquelles on s'accomplit forcément mieux et plus. Mais au départ, j'étais juste contente d'avoir du travail. Je trouvais ça super.
Alors, il convient avec vous, Zabou Breitman, d'évoquer d'une part votre parcours de comédienne, d'autre part votre parcours de mise en scène. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a un métier qui a pris un travail qui a pris le pas sur l'autre?
En fait, il s'est passé il y a plusieurs fois où je me suis retrouvée metteur en scène de mon projet comme actrice aussi. Donc, c'est vraiment pas l'endroit que je préfère du tout. C'est même pas très agréable. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup moins ça que d'être mise en scène. C'est une énorme différence de plaisir. Je ne cherche absolument pas à mettre en scène quand je suis comédienne moi-même. Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas ce que le metteur en scène a dans la tête. Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas uniquement comme actrice. Ça m'intéresse de lui donner que veut-il ou que veut-elle. Et plusieurs fois, je me suis retrouvée à faire les deux et j'aime pas ça. Je sacrifie la comédienne en général.
On voit des gens, quand on voit la Compagnie des Spectres, on n'a pas l'idée que vous sacrifiez quoi que ce soit. Ce sont des spectacles extrêmement aboutis, très différents d'ailleurs, l'un et l'autre. Mais pour parler de ceux que vous avez mis en scène et interprétés.
La Compagnie des Spectres, typiquement, j'ai souffert le martyr pendant des représentations où plus de 100... Il a fallu au moins 60-70 représentations pour que je me cale, comme on dit. C'est-à-dire, mais il n'aurait jamais fallu ce temps-là s'il y avait eu un metteur en scène, un directeur d'acteur, parce qu'on a des chemins quand on joue. On a des vous voyez, ça me fait toujours penser aux skieurs avant une descente. Quand ils simulent leur descente, ils ferment les yeux et on les voit osciller le corps comme ça, et ils simulent la bosse, le tour, voilà, ils savent exactement la pression des skis, comment ils doivent se grouper. Voilà. Ben, un parcours aussi énorme que la Compagnie des Spectres, un seul en scène, nécessite ça, pour moi, de me regrouper et de réfléchir au parcours. Là, je traverse le bois, là, il y a le petit pont, là, je continue tout droit, là, je tourne un peu à droite. Là, pour moi, c'est comme ça. Or, ça, c'est donné par les metteurs en scène. Mais un vrai metteur en scène, il laisse pas paumer son acteur en général dans les bois, paumé, perdu. Il y en a, hein. Mais on les voit là, d'ailleurs, les acteurs perdus. Mais un metteur en scène, normalement, tient. Et là, c'est merveilleux, parce que vous êtes solide. En revanche, quand vous n'avez pas ce metteur en scène-là, moi, je me suis retrouvée perdue, angoissée, traqueuse. Mais c'est épouvantable. Alors, sur des gens, j'avais un partenaire. Et un partenaire qui avait un regard merveilleux, Laurent Lafitte, il me regardait d'une manière très, très fine. Et c'était beaucoup plus facile, même si c'est pas l'endroit, pour moi, c'est pas l'endroit le meilleur comme actrice, loin de là.
Puisqu'on parle de mise en scène, avant de revenir au travail de la comédienne, est-ce que ça aussi, c'est un amour qui s'est construit? Est-ce que c'est en étant comédienne, en travaillant avec des metteurs en scène, que ce métier-là, vous avez eu envie aussi de l'exercer, ou est-ce que l'envie préexistait depuis un certain temps, Zabou Breitman?
Je pense qu'elle préexistait, mais que je ne le savais pas. Je pense que je l'ignorais, et je pense que c'était une évidence. j'ai toujours dessiné. Je dessinais beaucoup. Et je fais aussi beaucoup donc, de modelage, mais je dessine. J'ai dessiné tout le temps des situations, comme des BD, des situations.
Des storyboards ?
Quand je les vois aujourd'hui, je faisais même ça dans mes dissertations. Je faisais des dessins. Donc, parfois, il y avait un gros point d'interrogation rouge dans la marge. Parce que, bon, il y avait un dessin, quoi, en plein milieu du truc. Quoi, elle se demandait. Et je faisais des dessins. Donc, c'était ouais, comme des scénars avec un dessin. En fait, c'est une évidence pour moi, l'image. Donc, d'abord, l'image cinéma. L'image, le son, ça se... Je ne filme pas ce que j'ai écrit. J'écris ce que j'imagine. C'est pas du tout pareil. C'est une démarche totalement différente. Je vois les images, je vois l'endroit. La voiture, elle, ouais, elle part de là, elle est comme ça, elle a cette taille-là. Je vois l'image et après, j'écris ce que je vois. Donc c'est dans ce sens-là. Pour le théâtre, je me suis pensée incapable. Je trouve beaucoup plus difficile de mettre en scène au théâtre qu'au cinéma. Je continue à le penser. C'est beaucoup plus difficile. C'est un plan fixe. Il faut être ou astucieux ou extrêmement talentueux ou avoir beaucoup d'idées. Je sais pas, un univers très très fort pour alimenter un spectacle, une scène. C'est beaucoup plus facile. Beaucoup moins de gens partent pendant un film, même très mauvais, que pendant une pièce. C'est pas du tout le même rapport. Et puis le rapport du direct, le rapport de l'art vivant est quand même extrêmement différent. Donc là, je me suis dit, me suis pensée totalement incapable. Je voyais même pas par quel bout on prenait autant le cinéma, je trouvais ça possible. Mais là, je voyais pas même par quel bout attraper ça. Comment on fait ça, quoi? Ça me semblait... Et maintenant, je trouve que le code, une fois qu'on l'a, on peut jouer avec, quoi. Mais il faut bien avoir le code avant.
Jouer, pour vous, Zabou Breitman, ça apporte quel type de plaisir?
Alors, ça a changé au cours de ma vie d'actrice. Et ça a changé à partir, il y a eu un moment, c'était Des gens. À partir de Des gens. Parce que...
Alors, Des gens, donc adaptation de films de Raymond Depardon, dont vous avez extrait des séquences que vous avez... De redonner sur le plateau.
Absolument. Donc on change de personnage. Les personnes deviennent des personnages. Les patients, des médecins, des patients, puisqu'on n'est que deux. Le travail est très intéressant parce qu'il se fait exactement à l'envers. Quand on a un texte de théâtre, on a des didascalies et on essaye ou de les interpréter ou de faire en tout cas ce que le metteur en scène pense même mieux que l'auteur. Voilà, c'est un deuxième auteur qui débarque et qui dit « Ah oui, mais moi je pense qu'on peut le faire comme ça. » Là, c'est précisément le contraire, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des gens, par exemple, qui sont un type qui est très 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 en colère et qui a des silences improbables que jamais dans un texte on aurait mis là. Donc, il fallait s'évertuer à comprendre pourquoi le type est comme ça. Donc, c'est exactement le système inverse. On a le résultat et on remonte et on refait machine arrière pour savoir d'où ça part. Depuis ce moment-là, il y a eu j'ai compris quelque chose qui peut-être que plein de gens ont dû comprendre déjà, mais qui avait à voir avec la déconcentration. Et ça, j'ai trouvé que c'était une clé extraordinaire pour un acteur. On n'est pas tout le temps concentré dans le jeu. On a besoin d'une déconcentration très travaillée, mais d'une forme de lâchage, d'une forme de déconcentration, d'ouverture. On ne peut pas être tout le temps à fond, quoi. Et ça, se laisser faire, se laisser attendre, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à comprendre, à... Je le voyais chez les autres, hein. Je voyais des acteurs qui faisaient ça, je me disais, oh, mais comment fait-il? À quel endroit il le sait qu'il faut faire ça? C'était totalement étranger pour moi. Et jusqu'au jour où j'ai joué avec Laurent, on a joué ça, et là j'ai compris quelque chose de très fort, que j'ai continué, que j'ai gardé, et je travaille les textes comme ça souvent.
Du coup, à partir de cette expérience-là, Zabou Breitman, quand vous travaillez un rôle, vous servez de ce que vous avez vécu sur des gens pour approcher le rôle, pour trouver, comme on dit, de l'extérieur, le rôle?
Je vais même plus loin. Parfois, je regarde un documentaire, je le regarde en boucle, ou je regarde la télé, ou je regarde un reportage, ou une interview. Ça peut être une interview. Et je me dis, ok, bon, bah, ce texte-là, je vais le jouer comme si j'étais interviewée, là, maintenant. Je le joue comme ça, avec des choses aléatoires, des hésitations, des précipitations, parce que la pensée est comme ça. Et je m'oblige à mettre des temps là où la convention ne voudrait pas les mettre. Or, la convention, c'est ce qui aplatit souvent beaucoup ce qu'on pense être du réel. C'est-à-dire qu'on dit, on va faire ça. Et on n'a qu'une sorte de naturalisme plat. Je trouve que tout à coup, forcer un temps qu'il n'y ait pas, qu'on n'imaginerait jamais cet endroit-là, ce que font les gens quand ils parlent dans la rue, vous vous asseyez sur un banc, moi je le fais souvent, hein. Vous écoutez une conversation, c'est absolument magique si on l'écoute d'une certaine façon. Parce que les temps, c'est dans les temps, c'est pas dans les mots, c'est dans les silences. Les silences sont placés à des endroits absolument magiques. Et donc je m'oblige à lire un texte, mais après c'est un travail, hein. Après le metteur en scène va me dire non, oui. Mais je mets le temps à des endroits qui défient toute convention, tout code. Ils sont absurdes, ces temps, mais la vie est absurde.
Et du coup, vous avez le sentiment que vous avez progressé en tant que comédienne?
Oui.
Vous êtes meilleure aujourd'hui que vous n'étiez autrefois?
Ah oui, je pense. Oui, je pense. Je pense que j'ai été vraiment très, très mauvaise. Hein. J'ai fait des trucs épouvantables, ouais.
Non, mais au-delà des débuts, peut-être hésitants, mais il y a des étapes comme ça qui vous font avancer dans votre pratique.
Oui. Oui, oui.
Et des gens, elle est fondamentale, cette étape-là.
Ah oui, là il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et puis, en vieillissant, après, je ne sais pas du tout à quel endroit ça se passe. Je n'ai pas tellement analysé ça. Est-ce que c'est la somme de tous ces moments passés, alors particulièrement avec mes parents, parce que j'étais enfant unique. Donc, on avait énormément de conversations. On riait beaucoup, beaucoup d'échanges. C'était très riche, hein. Est-ce que c'est la somme de tout ça? Probablement, plus toute la partie que j'ai vécue, tout ça fait une sorte de petit tian de légumes, on va dire. Pas pourquoi je dis ça, mais bon. Je vois un tian de légumes. Bon. Et je pense à un tian de légumes, pas par hasard, c'est parce que c'est pas horizontal pour moi. Le travail, il est toujours vertical. Je ne sais pas pourquoi, si je devais faire un dessin du travail, il serait comme une couche.
Mais c'est une sédimentation, c'est ce que vous avez déjà dit tout à l'heure.
Ouais, ouais. Je vois toujours
les
ça comme
les choses se déposent.
Voilà,
on accumule.
Oui, se déposent et sont toutes en même temps quand même. Mmh. Voilà, pas linéaire. Je ne comprends pas d'ailleurs de manière linéaire. J'ai du mal. L'abstraction dans l'espace me convient complètement, me plaît beaucoup plus. La 3D m'intéresse énormément. Voir les choses dans tous les sens, voir en dessous, du dessus, de côté. J'adore faire le tour de quelque chose. Et j'ai plus de mal à aller de A à Z d'une manière linéaire, quoi.
Et pour un rôle, vous avez besoin de faire le tour du rôle?
Je le fais très peu et beaucoup trop peu. Je pense que je ne travaille pas suffisamment. Ça va être compliqué cette phrase. Si je m'avais comme actrice, ça marche pas? Si, bon. Oui. Si je m'avais comme actrice. Bon, oui.
Oui, oui, si, si.
Mais que je ne me connaisse pas. Si j'étais pas la même personne.
Oui.
Je rends tout le monde fou. Bon, si j'étais pas la même personne, je pense que je trouverais que l'actrice ne travaille pas suffisamment. Je travaille d'une manière, je picore, je prends dans... au moment où je travaille quelque chose, je prends, mais comme tout le monde fait ça, je pense, tout fait écho tout à coup à cette chose. Donc je prends tout ce qui fait écho à cette chose-là, d'accord, pour me nourrir de ça. Mais je pense que je pourrais travailler plus. Donc je me dis, est-ce que moi qui aime tellement travailler, je travaille beaucoup plus comme metteur en scène, beaucoup plus comme réalisatrice, beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus assidue, systématique, que comme comédienne. Donc je me dis, est-ce que c'est parce que, au fond, je ne suis pas si comédienne que ça, je ne sais pas.
Bah, c'est peut-être votre façon de l'être, parce que ce qui est assez... frappant avec vous, il y a peu de gens dans notre pays en tout cas qui ont cette ouverture-là, c'est que vous pouvez passer d'une comédie populaire à un film d'auteur exigeant, un texte un grand classique, mais aussi du très contemporain, monter effectivement des extraits de documentaires de Raymond Depardon. Mais là, je parle vraiment pour l'interprète. J'ai l'impression que vous donnez autant quand vous êtes dans une comédie que dans un film dramatique.
Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, sinon faut pas le faire. Bah, je pense que ça serait épouvantable. Sinon faut pas
vous
le faire.
Vous ne prenez pas plus à la légère,
non,
que vous travaillez pas assez.
Ah non, non. En général, je trouve que je travaille pas suffisamment comme comédienne. Je devrais travailler mieux que ça, mieux, pas plus, mieux.
Mais vous accordez la même importance,
ah oui,
aux projets dans lesquels, oui, vous engagez.
Ah oui, ça serait comment dire, cynique sinon, ça serait terrible. Et ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est impossible. Ou alors, faut pas le faire. Ça reste aussi un métier, faut absolument. Pour moi, c'est très important. Ça reste un métier, donc on doit le respecter jusqu'au bout. Et on respecte, si on est engagé pour quelque chose et qu'on s'est engagé, le mot engagement est juste. On fait, alors on travaille et on fait ce pour quoi on a été appelé jusqu'au bout et le mieux possible. On ne peut pas préjuger du résultat pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Ce qui est d'ailleurs contraire. C'est exactement c'est comme un acteur qui joue une comédie en rigolant un petit peu pour montrer que ça va être rigolo. Je pense qu'il n'y a pas plus drôle qu'un acteur qui joue de la comédie comme un drame et le drame comme une comédie. Enfin, moi, ça me fait vraiment pleurer. Quand un drame est joué comme une comédie, ça peut me dévaster et l'opposé, me faire beaucoup rire quand un type est sinistre et très très drôle. C'est pareil, c'est-à-dire que l'engagement doit être absolu et on doit chercher. C'est peut-être dans les comédies très légères, que j'adore d'ailleurs, que le travail est le plus difficile. Quand on n'a pas un très grand texte, il faut bien se dépatouiller avec. Donc il faut aller chercher des choses, il faut falloir quand même y aller, même si l'eau est froide. L'eau est parfois plus froide, mais il faut y aller. Et quand il faut y aller, il faut y aller d'abord, mais non, quand il faut y aller bien. Je veux dire, voilà, il faut y aller bien. Il y a un respect quand même de. Voilà, je pense qu'il faut faire.
On va essayer de ne pas s'envoler dans le vent, le Mistral d'Avignon où on enregistre votre masterclass, Zabou Breitman pour France Culture. Mais on parlait du passage à la mise en scène tout à l'heure, et on va reparler du coup de votre père pour parler du premier long métrage, Se souvenir des belles choses, coécrit donc avec Jean-Claude Deray, né Claude Breitman. D'ailleurs, vos autres films, on en parlera, sont des adaptations de romans. Vos mises en scène de théâtre sont des pièces écrites par d'autres ou des adaptations de matériaux existants. Vous avez commencé par un scénario original. Parce que c'était lui ? Parce que c'était vous ?
Oui.
Parce qu'il y avait cette histoire-là à raconter et c'est ça qui vous a fait passer à la mise en scène ?
Non. Ce qui m'a fait passer à la mise en scène, j'étais en train de me dire comment ça s'est passé. Xavier Gélin, fils de Daniel Gélin et de Daniel Delorme, était un peu comme un cousin pour moi, parce que mon père et Daniel Gélin étaient très amis et étaient ensemble à 18 ans au cours Simon. Et on a toujours senti une filiation avec Xavier que j'aimais beaucoup. Et il a tourné, j'ai tourné dans plusieurs de ses comédies. Et j'étais tout le temps sur le plateau. Je m'ennuie profondément d'être, je sais pas où, posée ailleurs. Enfin, j'aimais bien regarder, je travaillais, j'étais contente. Et je regardais ce qui se passait sur le plateau. Tout le temps, les caméras, je demandais les focales, les machins, et c'est quoi ça? Et je regardais les lumières. Voilà. Et un jour, il me dit, mais toi, tu vas faire de la mise en scène. Et je lui dis, je sais pas. À partir du jour où il m'a dit ça, je me suis dit, ah bah ouais, peut-être que d'abord, j'ai ri, j'ai dit ben non. Et après, je me suis dit, bah oui.
Il a planté la graine dans votre esprit.
Et il a planté la graine, et il a passé un coup de téléphone aussi. Et il m'a appelé un jour, il a dit, bon alors, propose-moi un sujet. Alors d'abord, je vais proposer un sujet qui s'appelait Frouch, truc improbable, d'un type qui avait écrit un scénario, monsieur qui travaillait à la poste, un scénario complètement hallucinant, déjanté, complètement dingue. Je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Un truc vraiment très bizarre. Il m'a dit, ouf, c'est compliqué. Ensuite, j'ai proposé un truc d'une dizaine de pages, une sorte d'histoire d'amour, que c'était pas super, une dizaine de pages. Ensuite, je lui ai proposé ça, Se souvenir des belles choses, ça faisait une page et demie. Et ça s'appelait d'ailleurs, à l'époque, Moi, c'est la mémoire. Je lui dis, voilà, j'ai ça. Il me dit, ça, faut faire ça. Et il me dit, qui tu prends? Je dis, mais moi, je veux pas écrire toute seule, j'aime pas écrire toute seule. Alors il me dit, tu veux travailler avec qui? Et je lui dis, ben, je pensais à ce garçon avec qui j'avais écrit un début de documentaire, ou bien avec mon père. Il me dit, ben, un film sur la mémoire, il faut que tu l'écrives avec ton père. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et j'ai dit à mon père, tu viens, on écrit. Il dit, ah ouais, super. Et voilà, et on a regardé. D'ailleurs, on s'est servi de beaucoup de documents filmés par les médecins sur la mémoire. Et on a beaucoup ri à des moments tristes, évidemment. C'était absolument formidable. Formidable. C'était génial, très très libre. Et puis, il y a eu la mort de Xavier Gélin, qui donc a pu arriver au scénario, et qui me disait, ah ouais, ça va être super. Et en fait, le film est passé à travers plein de trucs, parce qu'il était un peu atypique. Il y a des gens qui disaient, oh là là, mais c'est quoi ce truc, c'est très bizarre. Il est passé parce que, comme Xavier était parti, il y a eu une sorte d'ouverture, et puis c'est allé jusqu'au bout. Ça a été un travailler avec le grand Dominique Chapuis aussi, chef opérateur et opérateur du film Shoah d'ailleurs, qui avait travaillé aussi, qui était opérateur sur La Nuit américaine de Truffaut et nous avait apporté le clap. Je me souviens, tout le monde était genre le clap de La Nuit américaine. Ça a été fait avec beaucoup de liberté, beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité, beaucoup d'amour. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était un vrai gros truc, le premier jour de tournage, où il y avait des camions. Tout à coup, on rentrait dans un truc très concret, il y avait des camions et plein de gens. Oh, il y avait 45 personnes, et j'ai senti une pression épouvantable. Je me suis dit, oh, il y a des camions partout, il y avait du matériel dans tous les sens. Et j'ai eu une angoisse terrible, que j'ai encore d'ailleurs quand on commence un tournage.
Et elle disparaît?
Ah ben heureusement. Non, c'est, d'ailleurs, je dis heureusement, oui et non. Sur un tournage, il peut arriver qu'on ait des scènes très lourdes, très difficiles, où je suis très inquiète. Et j'espère amener les gens au bon endroit et de bonne manière. C'est pas si facile. Ça demande une espèce de surénergie. C'est beaucoup plus facile d'aller quelque part quand vous savez où vous allez que de suivre quelqu'un qui va quelque part. Une équipe, c'est ça. Vous savez bien, quand vous avez quelqu'un qui va à un endroit, vous dites, oh là, mais c'est encore loin. Vous avez l'impression que c'est au bout du monde, que c'est très loin, qu'on ne sait pas par où on passe. Alors que vous, quand vous savez où vous allez, c'est très facile. Donc, tout le monde me dit, oh là là, quelle énergie tu as. Je dis, oui, mais pour moi, c'est plus facile. Je pense que pour une équipe, c'est beaucoup plus compliqué d'être concentré et de suivre. Parce que parfois je vais très vite dans la tête et il faut que tout le monde comprenne. Donc je fais des dessins. Quand ça m'énerve, quand j'arrive plus à expliquer, j'ai bon, hop, je prends je prends un crayon et je fais un dessin. Là.
Mais pour revenir un instant sur l'écriture et sur la coécriture, il y a eu donc ce scénario original coécrit avec votre père. Là, la série pour Canal+, elle est coécrite avec Anne Berest.
Oui.
La coécriture, ça se passe comment ?
J'adore. Mais j'adore parce que elle est concrètement à deux. Elle n'est pas concrètement chacun dans son truc. C'est comme un dialogue. C'est un dialogue. J'adore. Après, bon, évidemment, il y a tous les moments, c'est tellement énorme. Là, il y a 12 épisodes, donc ça fait beaucoup de textes. Mais donc, il y a des moments où chacune revient chez elle en disant, bon, alors là, j'ai pensé que... Parce qu'on se retrouve coincé par moments. Mais être ensemble, travailler ensemble avec Anne... En plus, on a deux énergies extrêmement différentes. C'est très joyeux, c'est très rapide. J'aime bien, je suis très rapide dans mon travail. J'aime bien être rapide, faire les choses vite. Ce qui n'est pas toujours bien, mais... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait lentement. J'ai mis 2 ans pour faire La logique imperturbable du fou, parce que je voulais que le processus soit lent, exprès. En me disant, je suis sûre que ça va induire un résultat évidemment différent. Mais on a travaillé extrêmement vite, de manière très dense. Mais j'aime ça. C'est comme si, justement, j'avais tout dans la tête en même temps. Donc, c'est très, très intéressant. Elle-même a beaucoup, beaucoup de mémoire. Ce qui fait que c'est du ping-pong, quoi. C'est du ping-pong. J'aime travailler... les films que j'ai écrits, adaptés avec Agnès de Sacy, on avait fait Je l'aimais. C'est pareil, on était là ensemble, tout le temps. Ce qui n'est pas souvent le cas, hein.
Comment est-ce que vous savez que vous avez la bonne version du scénario et que cette fois c'est fini et qu'on peut aller sur le tournage ?
Aucune idée. C'est de l'intuition. Ça reste, je le sens bien. Pour moi, pas pour les autres, bien sûr. Après, il y a d'autres gens qui me disent c'est intéressant cette question.
Parce que enfin une.
Ah, arrêtez. Oh, vous voulez du compliment. Alors, non, c'est intéressant parce que précisément, il y a un moment donné, j'en peux plus des mots sur le papier. Et que le moment où je dois quand même modeler ma petite tête, là, en pâte à modeler, il va falloir qu'il arrive vite. Or, l'application est vite nécessaire. Je n'en peux plus d'avoir. Mais il y a des gens qui écrivent. Ce qu'ils filment, c'est ce qui est écrit. On parlait tout à l'heure hors micro là, de Haneke. Il filme ce qu'il a écrit. Hein, de Ville, pareil. Bon. C'est. Et là, pas du tout. C'est le mouton là qui est dessiné sur la caisse, quoi. C'est celui-là que il est. Voilà, il est dans la caisse, le mouton. Mais ça c'est pas terminé. Je jongle, ce qui est pas si facile avec 12 épisodes en même temps. Mais là, en l'occurrence, je jonglais avec ça pourrait aller là, ça pourrait aller là, comme une déconstruction-construction, quoi, sans arrêt, en permanence, au jour le jour, quoi.
Oui. Mais c'est parce que il faut que ça rend le tournage aussi vivant, le moment du tournage. Vous avez besoin de Bob Bretman que on puisse bouger des choses, que quelque chose qui marche pas, quelque chose qui s'invente, il faut l'attraper.
Tout de suite, ouais. Ah oui, j'adore ça. Rester donc très concentré aussi. On veut ça, mais rester poreuse. Surtout rester poreux parce que tout à coup quelqu'un débarque et fait un truc. On dit bon, je peux raconter un exemple très concret. Alors, on va tourner une scène où une actrice est perdue ils sont tous perdus dans un village. Et elle va demander de l'aide à trois villageois qui la regardent bizarrement. Bon. Il se trouve qu'en allant sur ce tournage, on se perd, d'accord? On se perd avec l'assistant. On est paumé. On s'arrête, on arrête un camion, le type sort du camion, et se lance dans une explication qui nous a encore plus perdus. C'est-à-dire que c'est devenu métaphysique. Parce qu'il nous disait des trucs du genre, voilà, là, il y aura une rue à gauche, vous ne la prenez pas. Donc, ça devenait impossible. Et cette scène-là, elle est dans le film, je l'ai mise. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui commence à dire, oui, mais si vous passez par là, ça peut être intéressant. Alors, ne prenez pas ça. Et alors, bon, voilà. Et ça, évidemment, bon, ça c'est un exemple assez rigolo et très concret. Mais c'est tout le temps quand on travaillait, mais il n'y a pas longtemps, quand on travaillait sur la logique du fou, bon, ils avaient un petit bonnet de lapin, il y a un moment donné, parce que des comédiens s'amusent avec, le met à l'envers, d'accord ? Donc ça fait une tête de lièvre. Et je lui dis, oulala, reviens ! Et on a fait une scène, parce que je trouvais ça tellement joli, et juste parce qu'il avait joué. Donc je trouve intéressant, on pense qu'on a fini, mais on n'a pas vraiment fini. Il faut laisser une place pour une curiosité, pour une chose à laquelle on n'a pas pensé. Si on fige tout, j'ai la sensation qu'on va perdre de la vie, on perdra un peu de vie.
Mais est-ce que c'est valable aussi, Thabo Bretman, dans votre direction d'acteur? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent encore arriver sur le plateau, ou est-ce que quand même c'est le travail préalable, discussion, alors lecture à la table pour le théâtre comme pour le cinéma, qui quand même, là, pour le coup, il faut quand même donner des bases claires à vos interprètes.
Ah, c'est très clair. Ouais, non, là, par contre, c'est... Mais ça peut démarrer, et ça démarre toujours de... Un acteur, c'est pas un sac vide. Un acteur, il a une couleur, il a des bagages, il a un bagage plus ou moins chargé, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de marier l'acteur et le personnage, et que l'acteur soit. Le personnage n'est que lui. S'il décide d'avancer, c'est le personnage qui avance, pas l'acteur. Je veux dire qu'il faut toujours respecter ça, parce que c'est tellement beau. Et c'est tellement unique, et ça sera unique parce que c'est lui qui joue et pas quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre qui joue, ça sera un autre personnage qui aura la couleur que l'acteur y amène. Il y a porte, la couleur n'a pas de petite main, donc il y a porte. Donc il faut laisser une part au moment du travail. En revanche, au moment où le spectacle va exister officiellement, on va dire, va être créé, le travail il est très 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 précis, extrêmement précis. Même c'est compliqué parfois pour des comédiens parce que je demande que le corps soit pareil, tout est précis et pourtant libre. C'est comme une impro de jazz, quoi. Les mecs, ils savent exactement où ils vont, quoi. Ils savent exactement où ils sont. Et en fait, c'est une impro sans être une impro.
Oui, mais ils font quand même pas la même note à la même seconde chaque soir, alors que oui. Pour parler de logique imperturbable du fou,
ils font la même note.
Vous présentez ici, on voit très bien que c'est réglé de façon, et c'était le cas pour Système Ribadier, pour l'enlèvement en sérail, forcément, il y a une partition. Comment faire pour que ça reste vivant alors que c'est extrêmement calé?
Faut recharger. Recharger, c'est-à-dire donner des notes. Et que très vite, là, au début, les notes étaient techniques. Sur les comédiens, ce sont des jeunes acteurs en plus. Les notes étaient plus techniques.
Ben là, ce sont des jeunes acteurs. Quand c'est les comédiens du français, c'est autre chose.
Ah, ben, je les ai emmerdés. Hein. Mais oui. Mais après, ça ne bougeait pas. En fait, il faut recharger les intentions. C'est-à-dire que la technique, elle se dire attention, là, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus à jarre, un peu plus au lointain. Voilà, ça, c'est, bon, c'est des petites choses embêtantes. Après, ce sont les intentions qu'il faut recharger. Quand on décale, c'est que l'intention n'est pas suffisamment claire. Le décalage d'un acteur, c'est quand tout à coup, ça va glisser tout doucement. Alors, ça se fait beaucoup, parfois dans la comédie. On sent qu'il y a un rire, hop, on va aller un tout petit peu proposer au spectateur de rire. Ou dans le drame, on va forcer le drame. Ou dans un temps qui est très beau, ce temps va devenir trop long. Ou trop court. C'est la charge intérieure qui doit... Donc il faut... On peut passer par un truc très technique, de dire t'attends bien, mais aussi on peut passer par les deux. C'est-à-dire que il n'y a pas de loi, parfois c'est selon l'acteur d'ailleurs. Parfois il y a des acteurs qui ne sont pas super précis physiquement, mais ils le seront précis si vous leur parlez de l'intention. Et là vous savez qu'à cet endroit-là ils sont précis. C'est-à-dire, chacun a tellement sa façon qu'on ne peut pas utiliser le même langage, les mêmes codes et les mêmes mots pour chacun. Des gens qui ont besoin de beaucoup de choses, d'adjectifs, et des gens qui ont besoin de pas trop, parce que ça les embrouillerait. Il ferait moins bien. Donc, je trouve que c'est beau d'aller respecter chaque endroit et en même temps d'être un peu un chien sur le métronome.
Et du coup, Zabou Bretman, vous avez du mal à laisser un spectacle vivre sans que vous soyez physiquement présente dans la salle quand vous n'êtes pas en représentation, quand ce sont nos Léon Xéry, Ribadier ou autres. Ça vous pose problème? Vous dites, ah, peut-être que ça se décale et qu'il faudrait que je sois là pour leur dire?
Non. Là, ils sont, ça fait une dizaine de représentations. J'ai partir 4-5 jours. Au contraire, c'est important. En plus, le fait qu'ils soient jeunes, ils n'ont pas joué beaucoup. Donc, devant du public, c'est très important aussi qu'ils prennent le rythme du public. Qu'ils prennent. Là, j'ai vu qu'ils sont très solides. Très, très, très solides. Mais.
Vous n'êtes pas inquiète? Vous n'avez pas ce rapport obsessionnel à l'extrême précision?
Un peu, mais bizarrement, je peux avoir ce truc-là. Ouais, c'est pas...
Il me semble, d'après ce que vous venez de dire.
Un peu les deux, quoi. C'est assez bizarre. Je peux être foutraque sur plein de trucs, et c'est tellement... Moi qui, dans la vie, arrive en retard, mon sac à main, c'est une catastrophe, enfin bon, il y en a partout. Là, c'est tellement... précis, je sais pas comment je peux être aussi différente, quoi. Je le vois et ça s'arrange pas en vieillissant. Hein. Non, mais c'est, je veux dire, mon sac non plus, hein, c'est une cata. Mais c'est amusant parce que j'ai l'impression que les deux versants s'accentuent. C'est assez curieux. Là, quand il y avait Ribadier, par exemple, non, quand il y avait Ribadier, je revenais parce que j'étais heureuse de les voir et que. Mais mon cœur se serre quand tout à coup il y a un effet qui n'est pas pile poil là. Enfin, beaucoup de metteurs en scène sont comme ça. Hein. Tous, quasiment. Non. Ou alors ceux qui s'en fichent complètement, mais ça m'étonne. Beaucoup de gens souffrent. Ça peut être très douloureux. Hein, quand tout à coup. Ça peut me rendre dingue quand tout à coup il y a une malhonnêteté. Voilà. C'est sur une malhonnêteté.
Sur le choix des textes que vous avez montés, sur le choix des romans que vous avez adaptés, Zabou Breitman, est-ce que vous avez le sentiment de suivre un sillon ou au contraire, là encore, de prendre différents chemins? Est-ce que vous savez à chaque fois pourquoi c'est ce texte-là que vous avez envie de monter? Est-ce que ça correspond à une nécessité?
Il y a eu plein de sources différentes et de raisons différentes. C'est-à-dire, par exemple, Je l'aimais, ce roman de Anna Gavalda, qu'on m'a demandé d'adapter. J'ai dit non immédiatement. J'ai dit, non, c'est pas du tout mon style de roman, mon style de littérature, et je rentrais pas du tout dedans. Enfin, non, je me suis dit, je vois pas trop ce que je peux faire avec. Et le producteur insistait, Fabio Conversi insistait, il me dit, si. Je voyais pas. Et petit à petit, en le relisant, en fait, c'est l'histoire du souvenir. Hein. Ça fait écho à quelque chose que j'aime. C'était le souvenir. Le souvenir et la narration et la double narration et les temps des verbes. En fait, je me souviens qu'un jour, je suis tombée amoureuse des temps. Il y avait de l'imparfait, du passé simple, du présent. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai travaillé vraiment sur un truc, sur les mots. Et c'est de là qu'est partie l'adaptation du temps des verbes. Drôle. Mais on construit les choses à partir de n'importe quoi. Hein. Donc on peut construire, on a le droit de faire de dessiner le rideau de la fenêtre avant le plan de la maison.
Oui, mais un nouveau projet, il se fait quand même en réaction au précédent.
Non, pas forcément.
Dans un sens ou dans l'autre, encore une fois, creuser le sillon ou au contraire dire « Ah ben ça, je ne l'ai pas fait, donc j'ai envie d'aller vers quelque chose que je n'ai pas encore fait ».
C'est pas conscient. Hein. C'est le cas, c'est pas conscient. Parce que là, je suis en train de co-réaliser un film d'animation. C'est vrai que je n'avais pas encore fait. C'est pas seulement pour ça. Chaque projet est quand même un nouveau. J'ai l'impression que c'est toujours la première fois, la toute première fois que je fais un truc, même si c'est du théâtre et que c'est tout nouveau. Peut-être j'ai même encore plus le trac maintenant. Alors, la vraie nouveauté, a ça de différent qu'on ne connaît pas le chemin, on ne connaît pas, on y va comme ça, et il y a une forme d'insouciance qui peut-être est très agréable aussi.
C'est le cas à l'Opéra de Paris, je me rappelle vous avoir croisé à ce moment-là, vous étiez tellement heureuse de faire cette chose que vous n'aviez jamais faite.
Alors oui, parce que de faire cette chose que je n'avais jamais faite, d'écouter cette musique en permanence, de connaître les airs, d'avoir des chanteurs exceptionnels qui en plus étaient merveilleux, un chef fabuleux. C'est-à-dire, il y avait tellement d'excellence. Quand vous êtes metteur en scène à l'opéra, vous êtes le sous-chef. Hein. C'est pas vous le chef. Le chef, c'est le chef. Et c'est fabuleux comme position aussi. Vous êtes tout en train de... Là, c'est un rêve. Là, c'était comme un rêve. Pour moi, c'était à Garnier, dans cet endroit incroyable. C'était comme un rêve. J'arrivais, je disais, bon, je vais au bureau. Et donc, voilà, il y avait Garnier, quoi, comme ça, qui était là, l'opéra. C'est une chance inouïe. Et encore une fois, quand on ne sait pas ce qui va se passer, quand on ne connaît pas le chemin, là, pour le coup, il y a un peu plus d'insouciance. Donc, on se régale un petit peu plus.
On pourrait se dire qu'il y a un peu plus d'appréhension. Pour vous, c'est un peu plus d'insouciance. Encore la version optimiste, la vision optimiste de la vie, votre père qui est toujours là.
Ouais, ouais. Oui, c'est une nouvelle ère de jeu, c'est ça. C'est un nouvel endroit pour jouer, mais c'est plus ça. C'est ça, oui. Ah ouais, chouette, il y a un nouvel endroit pour jouer. Tiens, je ne connais pas ce parc. Oui, il y a un truc à voir avec ça. Avec chouette, il y a un nouveau truc à faire. C'est ça, ouais.
Alors, c'est vrai que ce n'est pas une chose qui est absolument répandue, encore une fois, sous nos latitudes, votre parcours, votre goût pour des choses très, très diverses. À ce propos-là, Zabou Breitman, comment est-ce que vous vivez la réception critique de votre travail? Alors là, que ce soit comme comédienne, comme metteur en scène, de cinéma, de théâtre, d'opéra, ce qui est à chaque fois un peu différent.
Alors, la première fois que j'ai lu une critique concernant mon travail, c'était sur les murs du TNP. Je jouais Angélique dans Dandin, mise en scène par Roger Planchon. Voilà, toute ma vie, je me souviendrai de tout ce qu'il a dit. C'est incroyable, comme j'ai tout imprimé et tout, et je, voilà, ce que j'aimais profondément. Et Il y avait une critique qui a été affichée parce qu'elle était très bonne, une très belle critique, Marc Abru, sublimissime. D'ailleurs, le spectacle était extraordinaire. Mais dans cette critique, il y avait trois lignes assassines sur la jeune comédienne qui jouait Angélique, et c'était moi. Et les bras m'en sont tombés. Et j'ai dit à Roger Planchot, j'ai dit, mais c'est vachement violent d'afficher ce truc-là, tout le monde est content. Et il me dit, ouais, mais parce qu'il sait pas ce que tu vas devenir. J'avais trouvé ça incroyable qu'il me dise ça. J'ai dit, mais moi, ça me tue. Comment veux-tu que je joue le soir? C'est très, très dur, quoi, derrière, de jouer. Alors, donc, j'ai compris une chose, c'est que, de toute façon, au théâtre, je pense que lire les critiques au moment où on est en train de fabriquer, c'est pas bien. Qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes. Les bonnes étant parfois plus dangereuses que les mauvaises. Un jour, on m'a dit, si tu lis ça, tu vas voir, il y a un truc sur Hilda de Marine Diaye que j'avais joué, de mise en scène par Frédéric Bellier-Garcia. On m'a dit, lis, c'est trop beau ce qu'il dit, c'est magnifique. Je dis, mais moi, j'aime pas faire ça. Si, mais juste ça. Donc, je lis deux lignes et il y avait marqué, elle avait écrit, en parlant de moi, dit Hilda d'une façon tellement incroyable. Eh bien, je n'ai plus jamais pu le faire parce que je ne sais pas comment, pourquoi je le faisais. Il y avait mille raisons.
Ça a coupé.
Une forme de d'innocence, enfin d'innocence travaillée, parce que il y avait énormément de travail.
Oui,
mais
parce qu'à chaque fois que vous deviez le dire, après avoir lu ça,
c'était fini.
Vous entendiez vous-même en train de chercher à savoir comment le dire.
Voilà. Alors donc ça, c'est pour la partie concrète, la plus concrète, la plus. Pour répondre à la question, ça c'est la première partie de la réponse. Et la deuxième partie est, à la suite de... Donc, Marc Abru était revenu, il avait dit, je trouve qu'elle a fait beaucoup de progrès. Et je m'étais dit, mais je m'en fiche qu'ils disent ça. Parce que moi, je sais que j'ai fait des progrès, mais moi, ça ne m'aide pas dans mon métier. Mmh. Ça ne m'aide pas, ça ne m'aidera pas. Ce souvenir des belles choses, il y a eu... On m'a envoyé par erreur, un fax, il y avait des fax à l'époque, plein de critiques de trucs. Et je tombe sur 2-3 trucs assassins. Et je dis, mais je ne trouve pas, je ne suis pas d'accord. Et en plus, je ne peux pas parler avec la personne. Je ne pourrais pas le... Et est-ce que ça m'aide? Et je me suis dit, non. Les portraits sur moi, non. C'est pour ça que j'aime bien la radio. C'est fait, hop. C'est live. C'est live et c'est pas morbide, précisément. Parce que ça a quelque chose de morbide pour moi. Et
les portraits? C'est morbide?
Critiques? Non. Ce qu'on lit après. Eh ben oui, c'est figé, c'est fini. C'est voleur de petites ombres de paroles. Je sais pas si ça existe. Et ça me sert pas, ça m'handicape. Et donc, je me suis dit, comment on fait? Donc, il faut parler avec des amis, des vrais, qui vont vous dire, ouais, mais là, je trouve que... Donc, ils vont challenger, sinon c'est pas marrant, on peut rien faire. Et là, c'est bien. Et je me suis dit, c'est à cet endroit-là que je suis la plus heureuse, parce que je pense pouvoir faire tout. Je pense que ça couperait quelque chose de mon insouciance. Et c'est par là que je travaille, donc c'est par ça que j'aborde les choses. Donc, ça serait le chemin, encore celui-là, aurait... Les embûches seraient trop puissantes, trop... m'empêcherait en fait. Et je peux pas être empêchée parce que ça peut m'empêcher. Je crois que ce serait terrible. Ça m'empêcherait complètement. Ah, peut-être des gens qui seraient ravis, genre enfin, elle va arrêter de faire des trucs. Mais moi, j'ai envie de faire des trucs, donc voilà.
Et du côté des récompenses,
oui.
Alors sauf erreur, c'est quand même essentiellement la Zabou Breitman metteur en scène qui a été récompensée bien davantage que la comédienne.
Oh, pas du tout la comédienne. Oui, vous avez vu des trucs?
Oui, bon. Donc, si vous en souvenez pas, c'est pour dire. Alors, d'une part, est-ce que vous trouvez ça injuste? Et d'autre part, quelle valeur vous accordez aux récompenses?
Je pense la valeur qu'elles doivent avoir, c'est-à-dire que s'il n'y en a pas. Alors, si on n'a pas, je ne suis pas désespérée. Hein. Je trouve que d'être nommée pour une récompense, c'est déjà formidable. Être nommée. Donc, il y a des gens qui ont pensé à vous, qui. Voilà. Ne pas être nommé du tout pour certains spectacles, ça fait de la peine. Voilà, dites-toi, non, c'est pas juste, quoi. Là, c'était vachement bien quand même. Donc voilà. Après, vous savez, il y a beaucoup de circonstances, beaucoup de choses. Tout à coup, tout le monde va aller. Il y a des questions de calendrier, il y a des questions. Ça, malheureusement, ça n'est pas que ou des engouements trop grands d'un coup. Ou... Il faut savoir peser le pour et le contre. Il faut savoir être heureux aussi. Et je le suis. Si je reçois une récompense, je suis extrêmement contente, ravie, comme un cadeau. C'est un cadeau. Ça n'est pas forcément toujours extrêmement juste. Pas toujours. Même quand il y a combien de pièces ou de films qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas su voir ou qu'on n'a pas su regarder, qui mériteraient aussi. Mais au moment où on le reçoit, je me dis pas ça. Au moment où on le reçoit, je me dis ah, c'est chouette, c'est bien, ils ont bien fait.
Et peut-être pour terminer cette masterclass avec vous, Zabou Breitman, et puisqu'on parle de ces récompenses qui s'inscrivent dans des lignes de palmarès, la question de la postérité, est-ce qu'elle se pose pour vous ? Laisser une œuvre ?
Non. Non. Je n'y pense pas, en tout cas. Elle se pose peut-être. J'y pense pas, mais cela dit quand... Enfin, j'y pense pas, mais... Attendez. Sur ce souvenir des belles choses, ça m'avait énormément marqué. À la librairie de Beaubourg, j'ai vu un petit cahier, un carnet de notes qui s'appelait « Ce souvenir des belles choses ». Donc, il y a quelqu'un qui a... Et elle m'a dit « Ah ouais, est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Est-ce que tu veux déposer un truc ?» J'ai dit, mais non, ils se sont emparés de c'est tellement beau. Donc, oui, ça m'a touchée parce que ça voulait dire que ça fait 10-15 ans. J'ai vu aussi qu'il y avait un magasin de souvenirs qui s'appelait comme ça. Il y avait, et je trouve, alors ça me touche, je trouve ça très beau. Et puis, évidemment, on va pas faire un procès parce que c'est à moi que ça revient les droits. Je trouve que c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup, hein, quand il y a des choses qui sont.
Ça se transmet. On revient à la transmission. Partait du départ.
Ouais.
L'envie d'être prof.
L'envie
vous transmettez
propre.
Autre chose.
Bah oui, aujourd'hui, l'envie de produire des jeunes metteurs en scène. C'est, la transmission est fondamentale. Donc c'est plus la transmission que la postérité. Je l'ai dit, l'un et l'autre marchent aussi ensemble, hein, mais je trouve que la transmission a quelque chose de plus élégant, peut-être. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est plus naturel pour moi.
Forme de générosité.
Oui, que tout le monde puisse s'amuser, jouer avec le... Voilà, on dit maintenant, tiens, voilà, je te donne ça, tu peux jouer avec.
Merci beaucoup, Zabou
Breitman. Merci,
Arnaud.
C'était la masterclass de Zabou Breitman avec Arnaud Laporte. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.